Bonjour à tous. Merci Nathan pour cette invitation. À Saint-Malo, j'ai presque plus rien à dire après, après mes deux prédécesseurs. Vous avez tout dit, ou en tout cas les grandes lignes pour pouvoir transformer son activité. En deux mots, Constellation a été créée en mai 2016 avec 14 associés pour accompagner les entreprises dans leur transformation digitale, plutôt intéressante. On a grossi assez rapidement en croissance organique et croissance externe pour atteindre 750 collaborateurs aujourd'hui, un peu plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec 12 étoiles. Donc on parle d'étoiles dans une constellation. Chaque étoile est une activité en propre qui va avoir un métier particulier pour accompagner nos clients suivant leur degré de maturité. Alors on parlait du changement de rôle du CFO, il y a le changement de rôle du DSI aussi, parce que évidemment en fonction du niveau de maturité de l'entreprise et en fonction de la maturité technologique, on n'a pas du tout les mêmes enjeux. Si on fait du data center, si on fait du cloud, si on fait peu ou pas de sécurité, etc. etc. La prise de conscience telle que nous l'avons intégrée, puisque à beaucoup d'associés, c'est une prise de conscience collective qui s'est effectuée le 17 février 2021. On a fait une fresque du climat avec l'ensemble des associés et on a pris conscience de la finitude du monde. Alors on avait évidemment le rapport Meadows qui traînait dans un tiroir, on avait tout un tas d'alertes qui auraient pu nous mettre sur la piste, mais on n'avait pas conscience que, en tout cas, on n'avait pas pris cette conscience, j'irais, au cœur, on était un peu comme un parasite, comme tu disais, Olivier. On n'avait pas encore le symbiote greffé et très loin d'être l'architecte. Donc on exploitait les ressources et puis on les transformait, on les vendait et ça allait très bien. Et comme beaucoup d'entreprises, on était dans un business volumique. On achète et on vend, on fait de la marge au milieu, tout va bien. Et la problématique du CFO, c'est de se dire, ok, si j'arrête le volume pour éviter mes externalités négatives, comment je vais créer de la valeur? Et ça va être visible dans mon compte de résultats. Et donc, quand on a pris cette conscience avec la fresque du climat, je vous invite à tous la faire. Quelqu'un a fait déjà la fresque du climat? Quand même. Bonne sensibilité. Bravo. On s'est dit qu'on ne pouvait pas rester comme ça avec le secteur IT. 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, c'est plus que le secteur aérien, c'est plus que la France. Et avec une particularité, c'est que ça croît de 6% par an. Évidemment, vous avez tous des petits joujoux dans vos poches que vous remplacez assez régulièrement. Ça consomme beaucoup de minerais, beaucoup de métaux rares, beaucoup d'eau potable pour pouvoir l'amener, etc. Donc, en fait, la digitalisation, telle qu'on la promeut depuis, on va dire maintenant, une vingtaine d'années, est une catastrophe écologique. Et du coup, comment, en tant qu'entreprise qui vend de la transformation digitale, on arrive à accompagner nos clients vers une sobriété numérique? Alors que là, on est plutôt dans l'ébriété numérique. Que plus il y en a, on parle du métaverse, on parle évidemment de tout un tas de mondes virtuels, ils sont plus beaux les uns que les autres, sauf que le monde sur lequel on est assis n'est absolument pas régénéré. Chute dramatique des espèces, évidemment la biodiversité s'effondre, le gaz à effet de serre, j'imagine que tout le monde en a entendu parler, le carbone dans l'atmosphère, etc. Et donc on se rend compte que la finitude est à tous les étages. Et du coup, comment nous, qui accompagnons nos clients, et donc on ne représente rien quelque part dans la chaîne de valeur, que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que nos clients et nos partenaires, nos fournisseurs, sont évidemment bien plus importants que nous, entreprises de services, parce que dans la chaîne de valeur, on représente très peu. Mais du coup, il faut emmener cet écosystème, et on s'est dit, on va travailler sur un plan stratégique. Et donc on a nommé un Chief Impact Officer pour établir une stratégie qu'on a déclinée en 5 points en juin l'année dernière. Un, c'était sensibiliser, donc cette fresque du climat. On l'a généralisé pour l'ensemble des collaborateurs, donc les 500 de l'époque. Et donc on continue à, évidemment, tous les nouveaux à les inscrire dans cette sensibilisation. Puis la fresque du numérique, puisque c'est notre activité, évidemment. On travaille aussi à la formation. Donc un, sensibiliser. Deux, former. parce que pour pouvoir innover, pour pouvoir comprendre, il faut être formé à toutes les techniques. Donc on parle d'éco-conception pour faire du développement, on parle de rationalisation des flux, notamment d'énergie, etc., etc. Donc on a formé une vingtaine de collaborateurs pour pouvoir innover. Ensuite, on a fait nos bilans carbone. Bah, on était des mauvais élèves, on n'avait jamais fait un bilan carbone. Vous avez déjà fait un bilan carbone chez vous ? Quand on en a fait un, on est content parce qu'on sait de quoi on parle. Et justement, on ne parle pas de paille dans le nez des tortues parce que c'est un épiphénomène. On ne parle plus de mail, par exemple, avec des pièces jointes qui ont fait la une des journaux. Et donc, on prend conscience des volumes et des enjeux dans son bilan carbone. Donc, calcul, on a fait ce bilan carbone et on se rend compte qu'en fait, on représente 10%, si on prend l'amont et l'aval, 10% de notre bilan total de gaz à effet de serre. Donc, on va travailler sur l'amont, qui est l'essentiel de notre empreinte carbone. C'est nos fournisseurs qui nous amènent des matériels, évidemment, on fait du négoce. Donc, on achète des ordinateurs et on les vend. Et ça, c'est énorme en empreinte carbone. Et puis après, c'est la finance. Alors, c'est drôle. Parce qu'effectivement, le CFO est aux premières loges, qu'est-ce qu'il fait son argent ? S'il le place dans une grande banque française, c'est une tonne l'euro par an. Une tonne, un euro. Donc là, vous commencez à réfléchir à quel endroit je vais placer mon argent, à quel endroit je vais pouvoir réinjecter mes liquidités pour pouvoir rendre plus régénératif, plus durable les économies. En 4, innover, donc on a formé, on a innové, on a créé des offres bas carbone, donc à destination de nos clients évidemment, on a formé tous les commerciaux pour qu'ils puissent arriver à proposer ces offres-là, parce qu'en général, quand vous allez voir un DSI, vous lui parlez de carbone, il dit allez voir ça avec la RSE. Malheureusement, ça touche évidemment les DSI, et notamment dans les entreprises de service, c'est un des postes les plus importants. L'IT pour les entreprises de service après la finance. Et enfin, on a travaillé sur un alignement de la gouvernance avec un changement d'actionnaire, puisque bah, évidemment il faut financer tout ça. On a changé d'actionnaire en novembre 2021. On a fait rentrer dans notre capital un fonds d'investissement qui s'appelle Calium, qui est une filiale de la Caisse des dépôts, qui a depuis assez longue date intégré les sujets RSE dans ses KPI. On s'est inscrit à la Convention des entreprises pour le climat où on a rencontré Leighton, effectivement. On faisait partie de ces 150 entreprises engagées et qui ont pris un énorme choc sur la tête en comprenant dans quel monde on vivait vraiment. C'est-à-dire qu'on a senti le mur de manière assez proche. On a changé quasiment toutes nos agences pour les mettre en centre-ville avec des bâtiments HQE et accessibles par transport en commun. On a changé les flottes de véhicules pour prendre du véhicule plus léger et électrique pour systématiquement remplacer le thermique. On a travaillé sur nos métiers avec notre raison d'être pour devenir une entreprise à mission au mois de juin l'année prochaine. On est en train de travailler sur les P-plans de l'ensemble des commerciaux pour intégrer le coût de la tonne carbone dans leur marge. Et l'ensemble du CODIR sera indexé sur les engagements que nous avons pris. Donc cette stratégie qu'on a déployée au mois de juin, c'était de diviser par deux nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Donc ça fait 7,5% de baisse d'émissions de gaz à effet de serre par an sur une société qui, l'année dernière, faisait à peu près 100 millions, cette année va en faire 150. Évidemment, il y a un sujet de comment on crée de la valeur et comment on régénère notre écosystème. Et donc, on essaye de mettre en place des paliers successifs pour passer de parasite ou entreprise business as usual, on va dire, à une entreprise qui fait la RSE à la papa, comme on nous l'a appris à la CSE, c'est-à-dire qu'on fait un rapport à côté, et puis bah, globalement, c'est donné à quelques actionnaires qui en veulent, et puis ça fait joli sur les plaquettes, mais c'est pas dans le core business, à une entreprise contributive, et c'est la marche qu'on est en train d'attaquer. C'est-à-dire qu'on essaye de, au mieux, travailler avec ce qu'on a, plutôt que de jeter et de faire du neuf à chaque fois. Donc on va rentrer dans une économie plus circulaire. On va du coup valoriser les matériaux qu'on a extraits et plutôt que de les mettre au rebut de manière un peu bête, on va essayer de mettre en place une stratégie pour les réinclure dans le système et pour aller vers plus de régénératif. Ça a donné un certain nombre de résultats. C'est-à-dire que dans notre stratégie d'acquisition, il y a deux mois, on a racheté une société qui fait du reconditionnement de matériel qui fait de la prolongation de maintenance pour prolonger la vie des matériels. C'est-à-dire que, comme vos téléphones, vous pouvez les garder évidemment 6 ou 7 ans, mais tout le monde les change parce qu'il y a des offres promotionnelles pour aller les remplacer. De la même manière, dans l'IT, si vous achetez des bécanes à 1 million, au bout de 3 ans, le constructeur vous propose de bazarder tout ça parce qu'il a une nouvelle machine qui va plus vite, qui est plus performante, qui coûte moins cher, qui consomme moins d'énergie. Sauf que dans l'IT, 80% des émissions de gaz à effet de serre, c'est la construction du serveur, c'est la construction de la machine. Donc, on peut vous dire vous allez économiser 50% d'énergie, de toute façon c'est du nucléaire la plupart du temps, ou de l'hydraulique en France. Donc, globalement, assez peu de gaz à effet de serre, c'est pas vrai partout évidemment, hein. Vous allez en Allemagne, vous allez aux États-Unis, c'est pas la même chose, mais en France, l'enjeu principal, c'est la durabilité des équipements que vous allez mettre en place. Et une fois qu'on a fait ça, bah, globalement, on peut gagner entre 25 et 50% de gaz à effet de serre sur l'ACV, donc l'analyse du cycle de vie de la machine. Donc, ce qui fait que tout le monde est gagnant. Contrairement à ce qu'on entend assez souvent, faire de l'écologique, ça coûte plus cher. Non, ça ne coûte pas plus cher. C'est juste que c'est différent. Il faut réfléchir différemment. Et ça, du coup, on est forcé d'y réfléchir avec notre écosystème, avec nos partenaires en amont, les constructeurs, puisque forcément, on leur achètera moins, avec nos clients, parce qu'il faut qu'ils acceptent de ne pas être avec la dernière machine, parce que c'est tellement chouette d'être avec la dernière machine. Il faut qu'ils acceptent d'hybrider les ERP qu'ils avaient avant avec des nouvelles fonctionnalités qu'on peut aller chercher sur le cloud, mais pas forcément de tout jeter pour tout mettre sur le cloud, etc. etc. Et ça, finalement, ça incite à plus de réflexion en amont plutôt que de suivre les grandes vagues des constructeurs, des opérateurs et des éditeurs qui poussent, évidemment, parce qu'ils ont un business volumique, à tout changer. Et donc ça, c'est vraiment le point clé, c'est de travailler en amont et en aval. Et effectivement, quand on... Quand on a bien analysé son bilan carbone, il reste un sujet qui est comment on établit un dictionnaire commun entre nos partenaires amont, nos partenaires aval, donc nos fournisseurs et nos clients, parce que suivant la méthode que vous allez choisir pour faire votre bilan carbone, vous allez arriver à des chiffres totalement différents. Vous prenez un cabinet qui va vous aider d'un côté et un cabinet qui va vous aider de l'autre, ils n'ont pas les mêmes référentiels, ils ne vont pas arriver du tout à la même chose. Pour exemple, quand on a fait notre bilan carbone, on avait à peu près 23 000 tonnes de bilan carbone en 2019. En 2020, avec une croissance de chiffre d'affaires et avec beaucoup plus de négoces, on arrivait à 21 000 tonnes. Et pourquoi ? Parce qu'on avait d'un côté une conversion monétaire en gaz à effet de serre et de l'autre côté une conversion des flux physiques, et donc était beaucoup plus proche de la réalité, mais néanmoins qui faisait apparaître qu'on s'était largement trompé sur le premier bilan carbone. Donc on a mis en place un projet avec le chiffre projet, avec l'ADEME, avec le ministère de la transition écologique, pour essayer de créer un référentiel. On a créé deux spin-offs, une sur la formation, une sur l'analyse du bilan carbone et la trajectoire de décarbonation. Et on a mis en place un référentiel pour essayer d'avoir un langage commun pour que l'ensemble des parties prenantes puissent avoir le même dictionnaire et pouvoir construire des trajectoires de décarbonation.
Merci beaucoup.